Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est 23h30 en France, 1h30 ici au Qatar. Daniel Riolo est là, Stéphane Guy également, Julien Laurence est resté, Fouzia également est toujours avec nous. Fouzia que vous retrouvez sur Twitter, hein, son compte c'est @footballeuse.
Non, footeuse
pardon.
Avec 3 O.
Footeuse avec 3 O.
Et venez pas m'insulter.
J'espère qu'elle parle d'autre chose que de Verratti, sinon ça fait un peu court comme propos.
Ah bah non, mais là, va voir le compte, Daniel. Ah bah non, tu peux plus.
Non, je ne peux plus, non.
Hâte footeuse avec
J'aimerais bien, j'ai voulu, Stéphane m'a demandé.
Non, mais tu pourrais écouter les avis des gens et les commenter au lieu d'anticiper ce que tu peux. Non, mais tu pourrais laisser le bénéfice du doute aux gens que tu rencontres pour avoir un débat dépassionné et pas mettre tout le monde dans le même.
On va l'organiser en janvier, voilà, ce débat.
On est capable de parler comme des.
Le Maroc, s'il vous plaît, le Maroc. On va en parler avec Nasser Larguet qui est avec nous en direct et que l'on remercie d'être là. Bonsoir Nasser.
Bonsoir à tous et merci pour l'invitation.
Ben on est ravis de vous avoir parce que vous allez pouvoir nous éclairer sur la réussite actuelle du Maroc, puisque je rappelle que vous avez été DTN du Maroc plusieurs années. C'était avant l'OM, hein. Avant l'OM.
Et surtout, si je peux me permettre, Gilbert, Nasser est le créateur de l'Académie. Il te donnera le nom exact de Rabat, qui est le Clairefontaine marocain, qu'il a créé de toutes pièces il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, et Nasser nous le précisera, mais qui est, je pense, à l'origine même de ce renouveau du football marocain, dont on rappelle que la dernière participation à un tour qualificatif de Coupe du Monde avant cette Coupe du Monde au Qatar, l'était en 86 au Mexique. Donc il y a eu quand même une période compliquée, mais Nasser est un des constructeurs du football marocain, de fond, un homme qui a engagé un travail de fond.
Nasser, vous confirmez ?
Merci. Merci Stéphane pour ces précisions. Effectivement, mon retour au Maroc, puisque je suis originaire du Maroc, c'était en 2007 à la demande 2007. Du Palais Royal et de Sa Majesté le Roi pour la création justement de l'Académie Mohamed VI de football qui a ouvert ses portes en 2009. Et puis j'y ai passé 2 années pour construire et détecter les jeunes, et ensuite 5 années pour la diriger et entraîner les jeunes, dont 4 sont dans l'équipe nationale actuellement au Qatar, et ensuite 5 années en tant que directeur technique national au Maroc.
4 et pas alors des moindres, il y a Naïef Aguerd, il y a Nesseri, il y a lesquels autres, ça?
Il y a le gardien de but remplaçant qui est Tagnauti, qui joue au Wydad. Il y a un défenseur, c'est Naïef Aguerd. Milieu de terrain, Ounahi, Azdin. Et puis l'attaquant, Youssef El-Nassiri.
Aujourd'hui, quand vous voyez le Maroc en quart de finale de Coupe du Monde, est-ce que vous êtes, malgré tout le travail que vous avez pu faire, est-ce que vous vous dites quand même, c'est surprenant, le Maroc est un peu en surperformance, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites... C'est logique, vu ce que moi je sais du football marocain.
En toute honnêteté, c'est tout à fait logique parce que ça a démarré déjà avec Hervé Renard quand il y était. Ça faisait 13 ans qu'on n'était pas passé au deuxième tour des Coupes d'Afrique. Quand il est arrivé, il a fait passer l'équipe. Ça faisait 20 ans qu'on n'était pas passé en Coupe du Monde. Il l'avait fait, donc il a mis, je dirais, le football, notamment l'équipe nationale A, sur les rails. Et il ne faut pas oublier que pratiquement 60 à 70% des joueurs qui figurent dans cette équipe nationale a déjà joué 3 Coupes d'Afrique. Et c'est leur deuxième Coupe du Monde. Ça veut dire qu'en termes d'expérience, qu'en termes de performance, ils ont l'habitude. Et en plus, on a pratiquement 95% de cette équipe évolue en Europe. Et puis, des joueurs qui sont des joueurs dans des championnats majeurs, on pense à Ziyech qui est à Chelsea, avec Naïef Aguerd qui est à West Ham, avec
Hakimi au PSG, Mazraoui au Bayern. C'est ça qui fait aussi la qualité d'une sélection, c'est les clubs dans lesquels sont les joueurs, hein, ça compte beaucoup.
Exactement, ils emmagasinent de l'expérience, et puis je pense qu'ils n'ont rien à envier aux autres nations. Quand on prend Bounou qui a arrêté 3 pénaltys, ben, il est dans le championnat espagnol, il connaît très bien le football espagnol. Donc en toute honnêteté, arriver en quart de finale n'était pas une grande surprise, parce que pour moi, même quand j'ai vu le tirage au sort des groupes, quand je les voyais avec la Croatie, la Belgique et le Canada, j'étais persuadé qu'ils allaient passer au deuxième tour, peut-être pas premier, mais ils avaient les qualités, le potentiel pour le faire.
Nasser Larguy, bon, il y a quand même un truc, il faut qu'on parle un peu, de ce qui s'est passé hier face à l'Espagne. Donc évidemment qu'on n'a pas vu le football le plus flamboyant de l'histoire, c'est-à-dire que
c'est pas le football qu'on apprend à l'académie, Nasser, celui-là.
Voilà. Alors comment est-ce que vous voyez ça? Vous dites c'est du pragmatisme ou alors ça correspond à un esprit marocain? Je sais pas. Enfin, comment est-ce que vous analysez stratégie hier soir de Regragui?
Non, je pense que c'est le plan de jeu de Walid. Il savait que l'équipe espagnole était très joueuse. Si jamais on se livrait, il allait avoir beaucoup d'espace pour cette équipe-là. Il fallait changer. Et ça aussi, c'est un progrès du football marocain, puisque c'est vrai qu'on était très joueurs, très portés vers l'offensive, et parfois on s'oubliait sur le plan défensif, ce qui nous a coûté quelques performances au haut niveau, que ce soit dans les Coupes d'Afrique ou dans les Coupes du Monde. Donc aujourd'hui, je pense que la patte à Walid fait que le joueur maintenant marocain a pris conscience qu'il y a des moments où il faut faire le dos rond et peut-être profiter de certaines transitions offensives, et je pense que c'est chaque match a sa vérité. Je pense que Walid Regragui a bien mené sa barque sur ce match-là. C'est vrai que quand on est dans une compétition de très haut niveau, le plus important c'est de gagner, de passer des tours, malheureusement parfois au détriment de la qualité de jeu, parce que le Marocain, comme nous tous, même les spectateurs ou les téléspectateurs, aiment le beau jeu et on prône le beau jeu, mais il y a des circonstances qui font que on est obligé de changer notre façon de jouer.
Nasser Larguy est avec nous.
Est-ce que ça veut dire que contre le Portugal, il peut démarrer exactement avec les mêmes intentions?
Contre le Portugal, peut-être, parce que ils ont impressionné sur leur dernier match en mettant 6 à l'adversaire, donc ça peut être le cas, comme il a plein de, je dirais, de cartes en main, où il peut très bien, je dirais, aller vers l'offensive. Mais je pense que la prudence, ou bien se mettre en position médiane, ça sera peut-être la solution qu'il adoptera.
Je rappelle que Nasser Larguy a été DTN au Maroc, donc c'est l'aspect formation qui nous intéresse un peu plus ce soir.
Et qu'il est DTN de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, on ne l'a pas dit, Gilbert.
Exactement. Mais là, comme on voulait parler du Maroc,
c'est vrai.
Bon, si tu as raison.
Bonsoir, Nasser. Dans les générations qui arrivent, il y a El Khounous, par exemple, le jeune qui joue à Genk, je crois, qui a 18 ans, qui est peut-être le plus jeune, je crois, de la sélection actuelle. Mais dans les nouvelles générations qui arrivent, il y a aussi des gros talents. Il y a un futur Ziyech, il y a un futur Hakimi.
Oui, au Maroc, il y a quelques-uns. Et puis on avait mis en place, avant que je parte du Maroc, on a un très bon réseau de scouts en Europe, notamment en Espagne, en Belgique, en Hollande, en France, en Italie, qui détectent tous les garçons qui sont binationaux. Et quand j'étais à l'époque, ces garçons-là, on les suivait dans leur club. On avait des contacts directs avec le club, comme exemple, puisque c'est moi qui était rentré en contact avec eux, avec le Real Madrid, quand Hakimi jouait là-bas à l'âge de 15-16 ans. On a fait un suivi, on a invité les parents pour leur montrer ce qu'on était capable de faire. On leur laissait le choix de choisir soit entre le pays dans lequel ils sont nés ou le Maroc. Et en effet, il y a beaucoup de très très bons joueurs qui aujourd'hui veulent jouer avec le Maroc pour les binationaux, et sans oublier que en interne au Maroc, la formation se porte bien aujourd'hui. Il y a de très très bons joueurs dans les équipes, des moins de 15, moins de 17, moins de 20.
Alors il y a un truc quand même. Vahid Halilhodžić a donné une longue interview à SoFoot, là, intéressante. Bon, il revient sur son éviction, tout ça, mais il dit qu'il a quand même dû se battre, lui, beaucoup, avec des joueurs qui n'étaient pas hyper convaincus et qui hésitaient toujours entre deux pays, parce qu'ils avaient la possibilité de le faire. Ça c'est un problème récurrent dans pas mal de sélections africaines.
C'est un phénomène très fréquent en Afrique, ça.
Exactement. Peut-être que là, les choses vont changer, avec la réussite du Maroc à cette Coupe du Monde. Vous avez vécu ça aussi? Bon, là, Hakimi, ça a fonctionné, puis pour le meilleur, puisque c'est lui hier qui met le tir au but décisif. Mais vous avez aussi eu des refus fréquents de jeunes d'origine marocaine qui ont préféré
dire non. Oui, effectivement. Je l'ai vécu, par exemple, avec Boufal ou avec Harit. Hein. Harit devait jouer avec nous, avec l'équipe des moins de 20 ans. Et donc, il n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu la France qui l'avait sollicité. Et moi, je lui avais dit que c'était bien aussi de vivre cette expérience et que demain, quand ils arriveront, parce que tant qu'ils n'ont pas joué avec l'équipe nationale A, ils peuvent toujours changer de pays. Et si l'équipe nationale A du Maroc l'appelait, il était favorable pour venir.
Ça veut dire que vous ne mettez pas d'ultimatum en disant si tu vas avec les espoirs d'un autre pays ou les U, je ne sais pas quoi, tu ne viendras plus chez nous.
Non, pas du tout. Moi, je restais fidèle au fait que le garçon, puisque j'ai quand même vécu d'éducateur et de formateur en France, et je connais le dilemme que peuvent avoir ces jeunes. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils ont été formés là-bas, ils ont joué avec leurs copains là-bas. Et c'est très difficile de faire un choix. Il faut leur laisser le choix. Par contre, la seule chose que je leur disais, s'ils n'étaient pas convaincus à 100% de venir jouer avec l'équipe nationale du Maroc, c'était pas la peine qu'ils viennent. S'ils sont convaincus qu'à 80%, 90%, les 20%, 10% restants, si jamais il y avait un couac avec nous, avec l'équipe nationale du Maroc, il allait nous en vouloir toute sa vie. Donc, c'était un deal. On leur disait que de toute façon, s'ils choisissaient le pays dans lequel ils sont nés, ils seront toujours marocains, on sera toujours supporters d'eux, sans aucun problème. Donc,
et Nasser, le choix, il était dicté. Par quoi principalement ? Par l'intérêt de faire une carrière en équipe de France parce que ça rapporte plus ? C'est quoi la proportion entre ceux qui finalement faisaient le choix par intérêt, par un opportunisme, et ceux qui étaient vraiment animés par « je me sens de jouer pour ce drapeau-là » Dans le football d'aujourd'hui, c'est rare ce genre de considération.
Je pense que le choix, il est à la fois... peut-être aussi de carrière et puis aussi de notoriété de la sélection qu'il va choisir.
C'est ça, c'est ce que j'entendais par intérêt.
Quand vous avez l'équipe nationale du Maroc qui n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde depuis 20 ans et que vous avez l'équipe de France qui a gagné 98, qui a gagné 2018, il est en droit de se poser des questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la performance du Maroc, je pense que le pourcentage de choix pour le Maroc sera un peu plus grand.
Quels sont les joueurs marocains finalement que le Maroc a raté, c'est-à-dire qui jouent dans les grandes sélections aujourd'hui?
Le joueur que j'avais moi sollicité, c'est Benacer qui a choisi l'Algérie parce que lui il pouvait choisir trois nations. Il pouvait choisir le Maroc par son papa, par sa maman l'Algérie, par sa naissance en France, parce qu'il avait les trois nationalités. On l'avait invité, on était d'accord avec le papa, et puis au dernier moment, il a fait le choix de l'Algérie, donc c'était un grand regret pour nous, parce que c'est un très bon joueur, mais en même temps, nous avons gagné Hakimi, nous avons gagné Mazraoui, nous avons gagné Ziyech, on a gagné Amrabat, on a gagné Saïs, donc... je dirais proportionnellement, on a plus gagné que perdu de joueurs.
Mais l'un des premiers, mais en tout cas récemment, celui qui a fait beaucoup parler de lui dans sa volonté à aller prendre des joueurs et à leur dire « Bon, écoutez, si vous venez chez nous, c'est parce que vraiment vous avez envie de jouer pour le pays », c'est Belmadi avec l'Algérie. Ça a été une petite révolution, ce qu'a fait Belmadi en Algérie. Il voulait des mecs qui étaient concernés. Certes, il est allé en chercher principalement en France, mais c'était « si vous venez, vous êtes à fond » pour jouer avec nous, quoi. Il laissait pas trop d'ambiguïté. Et finalement, c'est vrai qu'après, il y a une sorte de dynamique qui s'est mise en place où les joueurs ont dit, bon, bah, vu que ça marche, vu qu'il y a matière à être tout aussi connu en jouant pour l'Algérie, on y est allé. Mais c'est lui qui a créé cet engouement. Et je suis content de voir que le Maroc, où vous l'avez rappelé, effectivement, il y a pas mal de joueurs qui ont été un peu le cul entre deux chaises pendant pas mal de temps et qui maintenant semblent avoir envie de jouer pour cette sélection. Et ça va peut-être créer le même engouement. Et après un quart de finale de Coupe du Monde, assurément, il y a peut-être des joueurs qui se diront c'est une sélection qui me va bien et j'ai envie d'y aller. Soit c'est le pays de mes parents, soit c'est le pays où j'allais en vacances quand j'étais môme. Enfin, faut qu'il y ait quand même un attachement. Moi, ce que j'aime pas, c'est les sélections d'opportunité. J'aime pas trop l'opportunisme national, moi. Après, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais c'est bien quand on est quand même animé par quelque chose.
Guendouzi aussi, non, Nasser? Matteo Guendouzi aurait pu jouer pour le Maroc, non?
Guendouzi, je l'avais sollicité à l'époque pour les moins de 20 ans et il a été très clair et très franc avec nous, avec son papa. comme quoi lui, ce qui l'intéressait, c'était l'équipe de France. Donc c'est un choix qui est tout à fait respectable. Et puis et ça s'entend.
Je voudrais vous poser une question, Nasser.
Sur l'entraîneur,
parce qu'on a tous le regard tourné vers Walid Regragui. Vous nous dites, donc le mouvement, il a été initié dès Hervé Renard. Hein, c'est un travail de continuité qui paye sur cette Coupe du Monde. Ma question, elle est un peu vicieuse, mais c'est ainsi. Avec Vahid, est-ce que le Maroc aurait aussi eu ces résultats-là à la Coupe du Monde au Qatar? Vahid et les deux Zik.
En toute honnêteté, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai pas côtoyé Vahid Halilhodžić. Par contre, j'ai côtoyé Walid Regragui parce qu'il faisait partie de la première promotion de la licence pro CAF qu'on a créée en Afrique. La première a été au Maroc. Et puis, il y a un deuxième mondialiste qui était dans cette promotion-là. La première promotion, c'est Aliou Cissé. On avait invité trois ou quatre en dehors du Maroc. Il y avait Aliou Cissé, il y avait Ibengué, puis il y avait Pizzo qui était l'entraîneur en Afrique du Sud. Et Walid Regragui, on l'a vu à la fois dans les entretiens de jury pour pouvoir rentrer dans cette formation-là. Et aussi, on l'a côtoyé pendant la formation. C'est quelqu'un qui a une particularité, comme c'est aussi un binational, qui a connu l'équipe du Maroc. Il a les mots justes pour ses joueurs, pour les faire adhérer entre les locaux et ceux qui viennent de l'étranger. Je pense que je suis aujourd'hui les résultats de l'équipe du Maroc. Je sais que Walid a une grande part de responsabilité sur ce qui arrive à la sélection nationale du Maroc. Par contre, vis-à-vis de Vahid Halilhodžić, je suis incapable de me prononcer.
Walid
Regragui,
qui est un homme du neuf
objectif.
Merci d'être là.
Merci d'être là.
Merci.
Corbeille, oui.
Merci beaucoup. Bravo et bonne chance pour la suite.
Merci à très bientôt, Nasser Larguer, ancien député du Maroc.
Au revoir.
Et aujourd'hui en Arabie Saoudite, avec Hervé Renard. Et juste pour conclure, il y a quand même un truc. L'affaire Ziyech, on n'a pas trop eu l'occasion d'en parler, mais Vahid Halilhodžić ne voulait pas prendre Ziyech. Et quand même, la Fédé. Ça, c'est un truc. Imaginez que ça se fasse comme ça en France, on serait les premiers à hurler. C'est la Fédé qui a dit à Vahid Halilhodžić, on te dit qu'il faut que tu prennes Ziyech. Ouais. Tu vois,
Regragui, normalement,
t'as pas un sélectionneur qui accepte ça.
Mais pourquoi on aurait hurlé la Fédé? La Fédé a quand même le droit de dire. Enfin, la Fédé, c'est quand même l'employeur du sélectionneur. Et la Fédé a quand même le droit de parler.
Si demain Noël Le Graët arrive dans les journaux en disant moi, je veux, je sais pas, je te dis un truc au hasard, que Deschamps prenne Ajorc et tu prends Ajorc, on en débattrait, on dirait de quoi il se mêle. C'est le sélectionneur qui décide.
À ton sélectionneur.
Même s'il aurait raison sur le fond, sur Ajorc.
Dans ce foot, Noël Le Graët qui avait déclaré justement, je ne commande pas les choix de sélectionneur.
Regragui hier.
Nous, c'est nos habitudes en France. Mais...
qui dit que Ziyech, c'est une superstar et qu'on traite les superstars de manière différente des autres joueurs de ton effectif et que c'est normal. Et ce que Valide ne voulait pas, Regragui est prêt à le faire avec Ziyech et Mazraoui notamment.
L'Espagne, dans quelques instants, Fred Hermel nous attend. On aura l'occasion de revenir sur le Maroc d'ici à son quart de finale, évidemment, dans l'after. À tout de suite.